Bienvenue à tous pour notre deep dive du jour.
Oui, bienvenue.
On va se plonger dans une analyse.
Ah oui.
Assez percutante, je trouve.
Oui.
Dadan Ben-Shakoun, publié sur un portail d'opinion.
D'accord.
Des jeunes qui s'interrogent sur le destin de l'industrie automobile européenne.
Oui.
Accrochez-vous, on plonge au cœur du sujet.
Oui. On y va.
Est-ce la fin d'une époque pour nos constructeurs européens? Et si oui, est-ce que le Maroc pourrait être une solution?
Ah, la fameuse relocalisation, c'est un sujet brûlant, hein.
Oui.
Et l'analyse de M. Benchakoun ne mâche pas ses mots, hein.
Ah, c'est sûr.
Il dépeint un tableau assez sombre de la situation actuelle.
Oui, on a tous vu les chiffres catastrophiques de Mercedes-Benz récemment.
Oh oui.
Une chute de 6,7% du chiffre d'affaires.
Exactement.
Et pire encore, des bénéfices en chute libre de 51,4%.
Oui.
C'est quand même 1,72 milliards d'euros de bénéfices nets.
Ah oui.
Mais visiblement, ça suffit plus à rassurer
Non.
les marchés.
Et ce n'est pas un cas isolé. Ford aussi lève le pied en Europe.
Ah bon?
On parle de 4 000 emplois supprimés d'ici 2027,
Oui.
soit 14% de leurs effectifs européens.
D'accord.
Leur communiqué mentionne des contextes réglementaires et économiques sans précédent,
Ah oui.
ce qui en dit long
Oui.
sur les difficultés rencontrées par les constructeurs.
Oui, d'accord, mais de quel contexte on parle?
Alors,
Est-ce que Ford nous donne des indices
oui.
concrets sur les causes de ce repli stratégique?
Absolument. Ford pointe du doigt l'environnement réglementaire européen,
Oui.
notamment les normes environnementales de plus en plus strictes, qui augmentent les coûts de production
Oui.
et complexifient la mise sur le marché de nouveaux modèles.
Oui.
Du côté économique, on parle de la hausse des prix des matières premières, des difficultés d'approvisionnement et bien sûr de la concurrence féroce des constructeurs asiatiques, notamment chinois, qui proposent des véhicules électriques à des prix défiant toute concurrence.
Ah oui, la fameuse montée en puissance de la Chine, on en parle beaucoup. Mais est-ce que c'est vraiment une menace aussi sérieuse pour les constructeurs européens qui ont quand même un savoir-faire et une réputation solide?
C'est vrai que l'industrie automobile allemande, par exemple, a longtemps dominé le marché mondial grâce à son image de qualité et de fiabilité.
Oui.
Mais aujourd'hui, ce modèle haut de gamme est remis en question.
C'est-à-dire, est-ce que le premium à l'allemand n'est plus aussi attrayant qu'avant?
Disons que le contexte a changé. La crise du Covid-19, la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, tout cela a bouleversé les équilibres économiques,
Oui.
les coûts de production ont explosé. Et les constructeurs ont dû répercuter ces hausses sur les prix de vente. Résultat, les voitures européennes, même les plus prestigieuses, sont devenues inaccessibles pour une grande partie de la classe moyenne. Et pendant ce temps, les marques chinoises débarquent avec des véhicules électriques performants et abordables qui séduisent de plus en plus d'Européens.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Non?
Les constructeurs augmentent leurs prix pour compenser les coûts de production. Mais du coup, ils perdent des clients qui se tournent vers la concurrence.
Exactement.
Et en plus de la pression économique, il y a aussi ce changement de mentalité, surtout chez les jeunes générations qui se détournent de la voiture individuelle.
Exactement, le vélo, les transports en commun, la marche à pied. On assiste à une véritable révolution des mobilités et la voiture traditionnelle n'est plus forcément au centre de tout.
Non. Les politiques européennes favorisant les modes de transport alternatifs accentuent encore cette tendance.
Donc l'industrie automobile européenne se retrouve face à un sacré dilemme. Elle doit s'adapter à la transition écologique, réduire ses coûts de production, reconquérir les consommateurs, tout en faisant face à la concurrence chinoise et à l'évolution des modes de vie.
Oui.
Pas facile.
C'est là que l'analyse de M. Ben-Shakoun devient vraiment intéressante.
Ah.
Il ne se contente pas de dresser un constat alarmant.
Non.
Il propose aussi une solution audacieuse, la relocalisation au Maroc.
Ah, le Maroc.
Voilà.
On en a entendu parler comme un Eldorado pour l'industrie automobile, mais est-ce que c'est vraiment une solution miracle pour les constructeurs européens en difficulté?
C'est la question que l'on va explorer ensemble.
Oui.
Le Maroc présente des atouts indéniables, à commencer par une main-d'œuvre qualifiée et des coûts de production bien plus bas qu'en Europe.
Oui, on sait que Renault et Stellantis ont déjà des usines au Maroc et que la production automobile y est en plein essor.
Oui.
Mais est-ce que ce succès est transposable à l'ensemble de l'industrie européenne?
Bonne question.
Est-ce que le Maroc a les capacités d'accueillir une relocalisation massive?
C'est justement ce que l'on va analyser dans la suite de notre deep dive.
Oui.
Restez avec nous, on vous dévoile tout sur le potentiel du Maroc pour sauver l'industrie automobile européenne.
Génial.
À tout de suite. Alors, imaginez un instant le soleil du Maroc, des usines flambant neuves dédiées à la production de véhicules électriques dernier cri.
Oui.
Et une main-d'œuvre jeune et dynamique prête à relever le défi de la mobilité durable. Ce n'est pas un rêve, c'est le potentiel que le Maroc. offre aux constructeurs européens en quête de renouveau.
Ça a l'air presque trop beau pour être vrai.
Oui.
Mais concrètement, qu'est-ce qui fait du Maroc une destination si attractive pour l'industrie automobile?
Plusieurs facteurs clés jouent en sa faveur. Tout d'abord, sa position géographique stratégique.
Oui.
Située aux portes de l'Europe, le Maroc offre un accès privilégié au marché européen,
Oui.
tout en bénéficiant de coûts de production bien plus avantageux.
Oui, on imagine que les coûts de transport sont bien moins élevés qu'une délocalisation en Asie, par exemple. Mais est-ce que la qualité de la production marocaine est comparable aux standards européens?
Absolument, le Maroc a développé une véritable expertise dans l'industrie automobile avec des usines modernes et une main-d'œuvre qualifiée. Renault et Stellantis, par exemple, produisent déjà des véhicules au Maroc qui répondent aux mêmes normes de qualité qu'en Europe.
D'accord, mais au-delà des coûts de production, qu'est-ce qui différencie le Maroc d'autres pays qui cherchent à attirer les investissements étrangers?
Le Maroc a mis en place une stratégie ambitieuse pour devenir un hub industriel majeur, notamment dans le secteur automobile. On parle de zones franches performantes comme Tanjamed, avec des infrastructures de pointe et des incitations fiscales attractives pour les entreprises.
Tanjamed, c'est ce port gigantesque dont on entend beaucoup parler.
Oui.
C'est vrai qu'il a l'air assez impressionnant, mais est-ce que le Maroc a suffisamment d'énergie pour alimenter toutes ces usines?
Excellente question. Le Maroc mise gros sur les énergies renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, pour assurer une production énergétique propre et durable. Le pays a d'ailleurs un objectif ambitieux, atteindre 52% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030.
Alors, si on récapitule, le Maroc offre une proximité géographique avec l'Europe, des coûts de production compétitifs, une main-d'œuvre qualifiée, des infrastructures modernes et une transition énergétique en marche, c'est un cocktail assez séduisant pour les constructeurs européens, on peut le dire.
Et ce n'est pas tout, le Maroc investit massivement dans la formation de sa jeunesse, notamment dans les métiers de l'industrie et de la technologie. L'objectif est de créer une génération de talents capable de répondre aux besoins d'une économie moderne et compétitive.
Donc on pourrait imaginer une situation où le Maroc ne se contente pas d'assembler des voitures européennes, mais développe aussi son propre savoir-faire, ses propres innovations dans le domaine automobile.
C'est tout à fait envisageable. Le Maroc a la volonté de devenir un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale. Et pas seulement une base de production délocalisée, l'analyse de M. Benchakrouze souligne d'ailleurs le potentiel du Maroc à développer son propre écosystème de recherche et développement dans l'automobile, en attirant des centres d'innovation et en collaborant avec des universités européennes.
C'est une perspective passionnante, mais concrètement, comment cette relocalisation pourrait-elle se traduire en termes d'emploi et de développement économique pour le Maroc?
L'arrivée de grands constructeurs européens au Maroc créerait des milliers d'emplois directs dans les usines, mais aussi des emplois indirects dans toute la chaîne de valeur automobile, la logistique, la maintenance, les services. Imaginez l'impact positif sur les régions qui accueilleraient ces nouvelles usines.
Oui, on peut parler d'un véritable cercle vertueux. Les usines créent des emplois, les emplois stimulent l'économie locale. L'économie locale attire de nouveaux investissements. Et du côté des constructeurs européens, quels seraient les avantages concrets de cette relocalisation au Maroc?
Eh bien, en plus de la réduction des coûts de production, la relocalisation au Maroc permettrait aux constructeurs européens de se rapprocher de nouveaux marchés prometteurs, notamment en Afrique.
Oui, c'est vrai que le marché automobile africain est en pleine expansion et que le Maroc pourrait servir de tremplin pour conquérir ce nouveau continent.
Exactement, le Maroc pourrait devenir une plateforme stratégique pour la production et l'exportation de véhicules européens vers l'Afrique, le Moyen-Orient et même l'Amérique du Sud.
C'est une vision ambitieuse, mais qui semble tenir la route. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier les défis et les risques potentiels liés à cette relocalisation. On en parlera dans la dernière partie de notre deep dive. Restez avec nous. Bon, on a beaucoup parlé des avantages potentiels d'une relocalisation au Maroc.
Oui.
Mais il est temps de pencher sur le revers de la médaille.
Oui.
Quels sont les défis, les obstacles, les points d'interrogation qui pourraient freiner cet élan?
Oui, c'est essentiel de rester lucide face à un projet aussi ambitieux.
Oui.
L'un des premiers défis à relever, c'est la question de la formation. Si le Maroc dispose d'une main-d'œuvre jeune et motivée,
oui,
il faut encore la former aux technologies de pointe de l'industrie automobile,
oui,
notamment dans le domaine de l'électrique et de l'automatisation.
C'est vrai, on ne peut pas se contenter d'assembler des pièces. Il faut aussi maîtriser les technologies qui se cachent derrière. Et du côté des infrastructures, est-ce que le Maroc est vraiment prêt à absorber une relocalisation massive?
Alors, le Maroc a fait des efforts considérables pour moderniser ses infrastructures,
oui,
notamment avec des ports comme Tanjamed. Mais il reste encore du chemin à parcourir.
Oui.
Il faut investir massivement dans les réseaux routiers, ferroviaires et énergétiques pour accompagner la croissance de l'industrie automobile.
Et quid de la question environnementale? On sait que l'industrie automobile est très gourmande en énergie et en ressources. Est-ce que le Maroc peut concilier développement industriel et respect de l'environnement?
Alors, c'est un enjeu majeur.
Oui.
Et le Maroc en a conscience.
D'accord.
Le pays mise beaucoup sur les énergies renouvelables pour alimenter son industrie.
Oui.
Mais il faut aller plus loin en promouvant une économie circulaire, en réduisant les déchets et en développant des modes de production plus durables.
Et du côté des constructeurs européens, quels sont les risques potentiels d'une relocalisation au Maroc? On parle souvent de la stabilité politique, de la sécurité des investissements.
Effectivement, la stabilité politique et juridique est un facteur crucial pour rassurer les investisseurs.
Oui.
Le Maroc a fait des progrès significatifs sur ce plan.
D'accord.
Mais il est important de maintenir un dialogue constant avec les autorités locales et de s'assurer de la transparence des procédures.
Et au-delà des aspects économiques et politiques, il y a aussi la dimension humaine. Comment gérer les transferts de compétences, l'adaptation des salariés européens à un nouvel environnement, la création d'une véritable synergie entre les équipes marocaines et européennes?
C'est une question essentielle.
Oui.
Et il ne faut pas la sous-estimer.
Non.
Non. La réussite de cette relocalisation dépendra en grande partie de la capacité des entreprises à créer un climat de confiance, à favoriser le dialogue interculturel et à accompagner les salariés dans cette transition.
Alors, si on essaie de faire la synthèse de tout ça, on peut dire que le Maroc offre un potentiel énorme pour l'industrie automobile européenne.
Oui.
Mais qu'il reste des défis à relever, des risques, à anticiper, des questions à résoudre.
Exactement, l'analyse de M. Benchakroun que l'on a décortiquée ensemble.
Oui.
Met en lumière à la fois les opportunités et les obstacles liés à cette relocalisation. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un projet complexe qui nécessite une réflexion approfondie et une collaboration étroite entre les différents acteurs.
Finalement, c'est une invitation à la prudence, mais aussi l'audace. L'industrie automobile européenne est à la croisée des chemins et le Maroc pourrait bien être l'une des clés de son avenir.
Oui, c'est une perspective passionnante qui nous invite à repenser les modèles économiques, à explorer de nouvelles frontières et à construire des partenariats gagnant-gagnant pour un avenir plus durable.
Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive au cœur de l'industrie automobile. On espère que cette analyse vous a éclairé sur les enjeux de la relocalisation et sur le potentiel du Maroc. N'hésitez pas à creuser ce sujet, à vous forger votre propre opinion et à rester curieux face aux mutations du monde qui nous entourent. À bientôt pour un nouveau plongeon dans l'actualité.
À bientôt.